Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà donc pour cette histoire, Philippe Clohagen. Et l'aventure continue chez Hachette. C'est-à-dire que depuis 45 ans, vous êtes chez le même éditeur. C'est rarissime, ça.
Ah bah, il n'y a pas beaucoup de couples qui tiennent comme nous. Je pourrais être dans le guide des records. Un tout petit détail, tout est rigoureusement exact. C'est un travail considérable que vous avez fait. Mais je voulais simplement préciser que cette biographie a été écrite avec mon ami Patrice Trappier, qui est aussi journaliste.
D'accord, précision est faite. Vous remarquerez que ça n'est pas écrit sur la couverture. Je ne pouvais donc pas le savoir. Il a travaillé en sous-main, manifestement. C'était une bonne farce que d'aller d'ailleurs chez Hachette, Philippe. Parce que Hachette, c'était l'éditeur du grand concurrent titanesque à l'époque, le Guide Bleu.
Oui, c'est peut-être ça qui nous a fait vraiment, vraiment hésiter, mais Hachette avait un plus par rapport à tout le monde, c'est qu'ils avaient un service cartographique exceptionnel. C'est-à-dire que, bon, les cartes en France, c'est IGN ou Michelin. Oui. Mais en fait, Michelin, c'est surtout la France, un peu les capitales européennes. Mais quand vous voulez la carte de Delhi ou celle de Singapour, il n'y a qu'un seul éditeur français, c'est Hachette. Voilà pourquoi on a signé avec eux et on ne le regrette pas.
Alors, donc, vous rentrez dans la maison du Guide Bleu, mais en même temps, votre grande idée, c'est de se démarquer. Et d'ailleurs, ce n'est pas évident, parce que vous avez choisi d'écrire dans un autre français que celui du
Guide
Bleu.
Oui, alors, d'abord, il faut bien considérer que l'éditeur de l'époque était tout sauf un con. Manifestement, il avait compris qu'il ne fallait pas couper les ailes du Guide du Routard. Et il y avait un leitmotiv chez lui absolu, c'était la liberté. Et donc, il nous protégeait de tout, et en particulier des mouvements internes qui considéraient que le Guide du Routard était un peu impie par rapport à la grande culture touristique.
Et par exemple, vous avez, quand je dis que vous aviez une langue, un français qui était différent, vous écriviez bouffer. Pour aller bouffer à tel endroit, vous n'écriviez pas manger.
Oui, alors c'était un petit peu l'époque babacool, on s'est assagi depuis. Mais l'idée du Guide du Routard, vous avez raison, c'était d'abord un copain qui vous parle. Et c'était ça, d'ailleurs, qui a été peut-être à l'origine du succès. C'est-à-dire que si vous lisez un article de journal sur un film, bah, vous y allez, vous n'y allez pas. Mais si c'est votre copain qui vous recommande un film, c'est pas du tout la même chose. Et le Guide du Routard était sur ce registre. Alors, c'était pas voulu, on n'avait pas fait d'études de marketing, mais c'est peut-être ça qui a donné une confiance et un lectorat qui nous a été fidèle pendant énormément d'années et qui nous a permis de nous développer.
Et vous avez toujours fonctionné, y compris dès le début, avec un retour des voyageurs. Vous recevez à l'époque des milliers de lettres de gens qui vous disent « je suis allé là où vous m'avez dit, ça a un peu changé, vous devriez prendre ça et ça en compte, etc. »
Alors nous, on avait inventé TripAdvisor 20 ans avant les Américains, puisque effectivement, dans le premier guide du routard, à la fin, en dernière page, vous aviez un petit texte, les routards parlent aux routards, si vous avez des tuyaux, vous nous les envoyez et on vous remerciera par l'envoi d'un guide pour votre prochain voyage. Ce système a toujours fonctionné, il continue, et encore aujourd'hui, nous recevons à peu près 25 000 lettres et mails par an de lecteurs passionnés, parfois ils nous envoient 10, 15 pages, ultra documentées, ultra précises, et c'est presque un jeu pour beaucoup de nos lecteurs, devenus des amis pour un bon nombre d'entre eux, qui essayent de traquer la fausse virgule, le petit détail
Le petit
obsolète.
Déjeuner qui est moins bon que,
voilà,
que ce que vous aviez promis.
J'ai vérifié toutes les chambres, ce n'est pas la 18, c'est la 54 qui a la vue sur la pyramide de Khéops. Donc on a, en plus, on a affaire avec des gens qui sont très spécialistes. Je me souviens d'un architecte de l'Institut du Monde Arabe qui me dit « Écoutez, vous conseillez à Istanbul la mosquée bleue par rapport à Sainte-Sophie. Je vais vous expliquer pourquoi Sainte-Sophie est un chef-d'œuvre. » Et il nous a envoyé 10 pages de croquis. Et donc, très vite, le Guide du Routard a animé une sorte de communauté et nous en étions un petit peu au centre.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez été en mesure, des années après, de réécrire l'histoire du tout début du Routard grâce à vos carnets de voyage, parce qu'à l'époque, vous prenez des notes pendant tout le voyage. Un carnet par voyage.
Absolument, c'était une passion d'écrire, et d'ailleurs ça n'a pas bougé. J'adore traquer le petit tuyau, le restaurant un peu oublié, caché au fond d'une impasse, parce que c'est un immense bonheur de se dire « j'ai trouvé une perle, un bijou, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant exceptionnel, abordable, et on va pouvoir en faire profiter des milliers de lecteurs ».
Alors, quand on lit l'histoire du début de votre premier voyage en Angleterre, du deuxième à Istanbul, on se dit, mon Dieu, que le monde était moins hostile à l'époque. Parce que, tout de même, vous allez à Istanbul en stop à 18 ans, et il ne vous arrive rien de grave. Et on a l'impression que vos parents ne s'inquiètent pas.
Alors,
peut-être que c'est une impression.
D'abord, oui, je crois que mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels, très libres dans leur tête, qui avaient en tant qu'instituteurs la volonté, le désir de nous cultiver. Très vite, à 12 ans, on est parti avec l'attraction que vous évoquiez pour voir les plages du débarquement. Et puis, force pour mon père de nous raconter les Américains, pourquoi ils étaient là. Ils nous ont donné cette liberté perdue. Après, on est allé à Verdun, j'ai été en Belgique, j'ai connu l'aventure en allant à Barcelone.
Mais vous dites vous-même que pour vos propres enfants, quand ils sont arrivés à l'âge que vous aviez, vous vous êtes dit vous-même, je ne serais pas rassuré qu'il fasse ce que j'ai fait.
Oui, parce que il y avait quand même une part d'inconscience totale. Vous avez évoqué quelque chose de formidable que j'avais oublié, c'était ces soldats soviétiques. Mais en fait, ce dont je me souviens parfaitement, c'est que j'ai cru mourir. Lorsqu'ils se sont arrêtés, ils étaient tout simplement
ivre-mort.
En panne et ivre-mort. Donc, ils ont soufflé un petit peu. Mais moi, je croyais que j'allais passer à la casserole. Et pas du tout, c'était des gens qui étaient en mission. La Yougoslavie était, vous le savez, communiste à l'époque. Et donc, ils faisaient leur travail de soldat. Et c'était des gens formidables qui voyaient très bien que personne ne pouvait prendre un routard à 10 heures le soir au bord de la route. Mais il y a eu des moments où j'ai failli quand même un peu risquer ma peau. Et c'était beaucoup d'inconscience. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'équipe du Guide du Routard, où il y a une équipe qui part tous les deux jours, il est strictement interdit de partir seul en voyage. Parce que j'ai pas envie de prendre les risques que j'ai connus étant trop jeune.
Alors vous racontez très très bien ce qu'était le stop, qui en vérité a totalement disparu. Plus personne ne part à Istanbul en stop depuis la porte d'Orléans ou la porte de Charenton. Le stop, vous expliquez que c'est une école d'abnégation incroyable, parce qu'on perd un temps fou en fait avec le stop.
Oui, mais c'est un excellent moyen de rentrer en contact avec la population. Quand mon père a voulu m'envoyer en Grande-Bretagne pour apprendre l'anglais dans une famille, c'est vrai que j'ai un peu triché au début, mais au bout de quelques jours, je lui ai avoué, quand je l'ai appelé pour lui dire que je continue en stop, il a parfaitement compris que c'était excellent pour l'anglais. Et lui, il ne voyait pas mal, il ne voyait pas de difficultés. Je crois qu'il ne connaissait pas du tout le voyage et les risques de la route. Et il trouvait que c'était une initiative formidable. Moi, je vous dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des parents, non pas libertaires, mais libres, en se disant, c'est la confrontation avec les autres qui forme les gens, un petit peu comme Montaigne lorsqu'il partait en Italie. Et c'est ce contact avec les autres qui forme l'individu. Et c'est ce voyage mis bout à bout qui m'ont formé et forgé d'une façon assez différente.
Quand vous faites le bilan du voyage de 69, donc le voyage qui vous amène à Istanbul, vous écrivez. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur, mais c'était formidable. Et là, il y a un truc qui n'est pas facile à comprendre.
Oui, parce que c'était l'aventure. Et quand vous voyez les skippers qui font des tours du monde au risque de leur vie, et c'est quand même beaucoup plus risqué que ce que je faisais, C'est vrai que au total, ils veulent tous repartir parce que il y a une émotion, une adrénaline. C'est, je crois, ce qu'on appelle l'aventure.
Il y a un côté un peu chrétien quand même là-dedans. Il faut souffrir pour prendre du plaisir.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Non. J'ai eu une éducation très chrétienne, pratiquante, mais c'était pas dans ce sens-là. C'était plutôt la rencontre avec les gens. J'ai eu l'occasion de dîner chez un maharaja qui nous avait pris en stop en Inde. Je l'aurais peut-être pas rencontré au cours d'un voyage organisé.
Je veux qu'on parle de l'Inde, d'abord parce que c'est un voyage strictement impossible à réaliser aujourd'hui. Traverser l'Iran en stop, l'Afghanistan en stop, le Pakistan en stop, pour arriver en Inde, c'est impensable. Et évidemment, je suis sûr qu'il y a un regret de ça. C'est une période révolue qui n'est pas près de revenir.
Oui, c'est des pays interdits par la bêtise humaine et la bêtise de quelques dirigeants. D'ailleurs, au préjudice de leurs populations locales, qui sont plus ou moins exterminées, qui vivent reclus, enfermées. Et c'est une terrible nouvelle, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer des Afghans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Pakistanais. Quel bonheur de passer des soirées avec
eux. Ils étaient ouverts à l'égard du jeune occidental que vous étiez.
Totalement. Totalement, c'était pour eux une découverte, c'était l'accueil. Quand on parle de l'hospitalité arabe, c'est pas un vain mot, et c'est pas en France forcément qu'on est accueilli facilement par les populations locales, mais en tout cas dans le monde arabe, sur cette route mythique qui, vous avez raison, est coupée dans trois endroits, eh bien, sur cette route, j'ai rencontré beaucoup d'amitié, beaucoup de soutien et beaucoup de sourires.
Alors, vous dites les choses avec beaucoup d'honnêteté concernant votre contact avec l'Inde. Moi, c'est quelque chose que je ressens profondément, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on peut pas aller en vacances. Je pense qu'on ne peut pas aller en vacances en Inde parce qu'il y a trop de misère et qu'on ne peut pas aller prendre du plaisir à deux pas de gens qui sont en train de mourir. Et ça, vous le ressentez dès votre premier voyage, vous avez 20 ans.
C'est très dur, l'Inde, parce que c'est une remise en cause de la solidarité. Je vais vous dire une conviction personnelle. Le pauvre qui fait la manche en Inde, il reçoit pas beaucoup d'argent des hindous, parce que c'est son rôle d'être pauvre. Il n'est pas né dans la bonne caste. Et donc, il y a aucune raison de lui donner de l'argent, parce que ça pourrait un petit peu trahir cette stabilité cosmique pratiquement qui est figée par le système des castes. Quand on voit la violence des castes vis-à-vis des femmes, on parle de MeToo en France, à juste titre d'ailleurs, il y a eu des abus inconcevables, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans le monde occidental. Mais attendez, en Inde, mais les femmes n'existent pas. Et c'est incroyable que Indira Gandhi a été élue Premier ministre deux fois de suite en Inde, alors que les femmes que l'on voit... J'ai été invité par un ami à Agra, qui tient un hôtel, et surpris à table de ne pas voir sa femme, dit « Mais attends, Philippe, elle n'est pas de ma caste, il n'est pas question que ma femme déjeune avec nous. » Et elle était en train de manger avec la domestique dans la cuisine. D'ailleurs, mon déjeuner s'est très vite abrégé.
Et j'ai beaucoup aimé aussi votre regard sur les hippies, c'est-à-dire que dès votre premier voyage, vous voyez l'imposture. Ils ne sont pas là-bas en train de prendre du bon temps, ils sont là-bas en train de se détruire.
Oui, alors, il y a deux mondes sur les hippies, j'ai pas vous faire une thèse là-dessus. Par contre, j'ai vu des vrais hippies, et le hippie, c'est pas quelqu'un qui a véritablement perduré en Europe, mais on l'a vu, et je l'ai vu aux États-Unis. Et le hippie, c'était quelqu'un qui rentrait en réaction contre la guerre du Vietnam. Et là, il y avait des raisons objectives, mais pourquoi tuer ces Vietnamiens? On leur a rien fait, on les connaît même pas. Ils prennent le régime politique qu'ils veulent, mais pourquoi nous, Américains, on doit risquer la peau de nos enfants pour changer la politique d'un pays étranger.
Mais c'est pas une raison pour aller se shooter à l'héroïne en
voilà.
Inde.
Alors, ceux qu'on retrouvait en Inde, c'était plutôt des babacools un peu rigolos qui en profitaient pour faire la manche, mais il n'y avait aucune politique dans cette attitude, alors qu'en Californie, j'ai vraiment rencontré des hippies qui avaient une mission contre la politique de Johnson, contre la politique même de Kennedy.
Vous écrivez tout ça sur l'Inde dans le premier numéro du Routard.
Oui.
Tout ce que vous avez ressenti,
ah oui,
sincèrement.
Parce que c'était véritablement une claque. Il y avait, après 68, n'oubliez pas qu'il y a eu des élections qui ont amené la droite Bleu Horizon
au pouvoir à
la Chambre des députés. Et donc, il y a eu beaucoup de manifestants, beaucoup de jeunes révolutionnaires qui ont été déçus et qui sont partis vers l'exotisme, vers l'Orient, essayer de chercher une autre philosophie, un autre monde, dans les ashrams ou ailleurs. Mais quelle claque ! C'est-à-dire que très très vite, on s'est rendu compte, avec les casques que vous évoquiez, avec la rigidité de ces régimes antidémocratiques, qu'il y a un pays quand même qui est formidable avec tous ses défauts, c'est la France.
Et d'ailleurs, j'ai vu que vous continuez à rédiger des guides aujourd'hui.
Bien sûr.
Philippe Loguen, c'est-à-dire une bonne partie des guides français sont faits par vous.
Mais oui, et surtout avec une équipe, hein. Je suis pas seul.
Mais vous allez encore dormir à l'hôtel de la Poste pour essayer le matelas?
Ah, mais j'ai tout connu de l'hôtel de la Poste jusqu'au palace, donc ça me gêne absolument pas. Et c'est même parfois un peu amusant de vérifier une adresse qui est pas à la hauteur.
Je renvoie à votre livre qu'on trouve toujours merveille du monde de numérique, Une vie de routard, publié en 2006 chez Kalman Levy, que vous trouverez sur Internet et en téléchargement, puisque l'ayant oublié à mon bureau vendredi soir, j'ai dû le télécharger hier soir pour finir d'écrire cette histoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.